Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion, prise de son assurée ce soir par Emmanuel Mordinck, en réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, ce soir, Sandra Dancourallé, Frédéric Bonnet et Boris Attruc. C'est une première pour Boris. Bienvenue à lui et à ses trombones de couleur pour ces sujets, les sujets dont nous allons parler ce soir. Éblouissante Venise, c'est au Grand Palais à Paris. Amour, c'est au musée du Louvre-Lens, et l'exposition de Fred Sandbach, c'est à la galerie Marianne Goodman. Il y aura un coup de cœur aussi. Ce soir, c'est Sandra Dancourallé qui a gagné le droit d'exprimer son coup de cœur, en l'occurrence pour une exposition Paul Serruzier au musée de Pont-Aven. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner en fin d'émission avec le jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour aller voir le film Shut Up and Play the Piano de Philippe Jédic, sorti aujourd'hui sur les écrans. Nous ouvrons cette dispute en nous rendant au Grand Palais à Paris, où vient de s'ouvrir l'exposition éblouissante Venise, Venise et les arts et l'Europe au XVIIIe siècle. L'exposition entend montrer que si Venise, à cette époque-là, n'est plus une place forte politique ou commerciale, elle reste une place forte de la production artistique et que la vie culturelle est également vivace. En écho d'ailleurs, chaque mercredi soir, disons-le tout de suite, de 19h à 22h, des éclats nocturnes sont programmés au Grand Palais, durant lesquels des comédiens, des danseurs, des musiciens se produisent in situ. Le commissariat de l'exposition est assuré par Catherine Loisel, la direction artistique, et la scénographie par Macha Makeyev.
C'è le rosa che sfiora il tuo cuore, fragile pure quella città d'amore, che ti strinse orgogliosa beltà. Orgogliosa bella, generosa che sfida il tuo cuore, raggi pure quella città d'amore che ti strinse. Orgogliosa, orgogliosa bella.
Critiques, bons élèves ce soir qui relisent leurs notes pendant que moi je danse évidemment sur la musique. Et c'est Sandra Dancourallé qui a très envie de pousser les portes du Grand Palais et nous faire voir par ses mots ce qu'est cette exposition éblouissante Venise. C'est quoi l'idée?
Alors l'exposition, elle met l'accent donc sur ce 18e siècle, la ville de Venise. On a l'impression est à l'apogée de son rayonnement, mais aussi c'est ce que montre très bien l'exposition, c'est en fait ce siècle des derniers éclats de sa splendeur avant son déclin, puisque en 1797, je crois, c'est la fin de la République de Venise avec Bonaparte qui remporte une victoire qui fait que la République de Venise va devenir autrichienne. C'est une exposition historique. Je le dis tout de suite, c'est après je vais faire peut-être voyager dans l'exposition, ouais. Mais tout de suite le premier sentiment que j'ai eu, c'est que sûrement que ça plaît aux spécialistes du XVIIIe siècle, mais je trouve dommage, Venise étant encore aujourd'hui une ville d'art, de cette vision un peu mélancolique.
Qu'est-ce qu'on y voit? Comment est l'exposition est-elle organisée, Sandra?
Les premières salles, elles sont consacrées à l'originalité de cette cité indépendante qui s'est instituée en République depuis le Moyen-Âge, qui s'est organisée autour de la figure du doge. Tout au long du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que Venise, finalement, est une destination prestigieuse pour un bon nombre d'Européens qui s'y pressent. En peinture, c'est l'époque des grands védoutistes qui peignent donc ce paysage urbain si particulier de Venise, avec ses palais qui sont le symbole du pouvoir de la République. Et on a donc dans l'exposition des vedutés magnifiques, célèbres, de Canaletto ou de Francesco Guardi. On voit aussi que c'est une époque incroyable de musique, l'exposition le montre. C'est le siècle de Vivaldi. Venise, c'est aussi un lieu d'excellence en ce domaine, avec je crois qu'il y a plus de, ou au moins 6 théâtres d'opéra qui rivalisent de raffinement.
Il y a aussi le théâtre, il y a aussi les arts décoratifs.
Exactement.
On passe un peu en revue toutes les disciplines, mais on le fait comment ? Tiens, allez hop, je fais tourner tout de suite la parole. Frédéric Bonnet, je reviendrai vers vous, Sandra.
On le fait comment,
c'est-à-dire ? On voit quoi ? Qu'est-ce qui est montré concrètement ?
Concrètement, on voit des peintures, des objets, des choses diverses et variées dans un déroulé qui m'a laissé perplexe, je dois dire. J'ai trouvé quand même l'éblouissante assez terne. Parce que, en fait, je me demande toujours quel est le propos de l'exposition, ce qui est légèrement un problème. Et surtout, à qui elle s'adresse. Bon, je pense que manifestement, elle s'adresse à un public qui n'a pas grand-chose à faire l'après-midi et dont on sait qu'il va pouvoir venir aisément remplir les salles du Grand Palais sans trop de problèmes, appâté par un sujet tapageur, éblouissant de Venise, sublime. Ça va claquer, tambour et trompette. Allons-y. La chose, c'est que quand on rentre dans l'exposition, justement, on voit quoi de Venise, on voit un saupoudrage de choses, mais il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de fil, c'est pas du tout exhaustif, ça ne prétend pas à l'exhaustivité,
oui, mais de catalogage.
Mais là, c'est véritablement un saupoudrage de quelques petites questions. Alors, comme le disait Sandra, Venise, son organisation politique, les Vedutés, quand on rentre dans la première salle, très bien, à l'étage, la diffusion européenne, les artistes vénitiens, alors pareil, un saupoudrage, deux, trois petites choses d'un tel, deux, trois petites choses d'un autre. La dernière salle, une génération un poil plus jeune avec Gian Domenico Tiepolo et surtout Pietro Longhi qui a mes faveurs. Moi je sors de là, j'ai rien vu de vraiment neuf. Si pour peu qu'on soit un petit peu intéressé au sujet et qu'on ait un peu visité quelques musées, on voit pas grand chose de plus que ce qu'on a pu voir. Dans plein d'occasions différentes. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est donné à voir n'est pas de qualité, parce qu'il y a quand même des très très belles pièces. Mais sur le fond de l'exposition elle-même, moi je cherche encore.
Alors, est-ce que vous avez trouvé Maurice Atrux ?
J'espère avoir trouvé. Je suis déjà assez d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. Mais pour moi, j'ai trouvé qu'en filigrane, l'exposition pouvait être la façon dont elle l'a voulu se montrer elle-même, pour elle-même et pour les autres, tout au long du XVIIIe siècle. Parce que j'ai beaucoup aimé l'introduction et la conclusion qui commençait avec la vision qu'on a et qui a été la création de la vision que les touristes ont et qu'on a en général de la ville, c'est-à-dire les portraits de la ville, les Veduti, de Canaletto et de Guardi, qui sont d'ailleurs des espèces de, je crois que c'est Pierre Rosenberg qui le dit dans le catalogue, qui sont des cartes postales de luxe en fait, et qui sont restées dans l'imaginaire, je pense, international, la vision qu'on a de la ville. Mais au milieu, ça tisse beaucoup de ça ouvre comme ça beaucoup de petites portes. C'est effectivement avec un peu de saupoudrage, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a c'est aussi une exposition de très érudite qui est assez parfois difficile pour un public moins érudit, surtout sur le XVIIIe siècle, qui est vraiment un siècle où on adore l'érudition. Les spécialistes, je trouve, adorent l'érudition sur le XVIIIe siècle parce que on a du mal à savoir pourquoi ces œuvres ont été choisies, pourquoi elles ont été mises là. On a On a un certain nombre de petites monographies comme ça à l'intérieur de l'expo qui sont parfois éclatées. Donc on a vraiment du mal à se faire un œil aussi sur les différents artistes. Parfois, on ne sait plus si on est en face d'un Piazzetta, d'un Tiepolo, si c'est le père ou si c'est le fils, parce que parfois on a comme ça des espèces de disjonctions chronologiques qui font qu'on est on n'est pas toujours sûr d'être en face de ce qu'on croyait être en face. Et
donc mais voilà, la conclusion. Vous disiez vous intéresse
sur
aussi
sur la dernière salle, par exemple.
Ouais, je sais pas. Vous disiez ouverture et conclusion.
Je pense parce que ça donne ce qu'on avait le plus, ce à quoi on s'attendait le plus de voir comme ça au début, au début à la fin, et au milieu on a un portrait d'une ville qui est quand même une ville show-off, je trouve. Mmh. C'est une ville qui se montre, c'est la capitale des fêtes, des jeux. Comme ça, on a un bordel organisé par la ville. On a un carnaval qui dure des mois. Donc c'est vraiment pour moi une ville qui a organisé sa façon d'apparaître, qui a cultivé ça à un point de maturation presque too much.
Mais Frédéric Bonnet disait terne tout à l'heure. Est-ce que vous le ressentez vous aussi, Boris Atrux?
Sur l'exposition terne, je dirais peut-être un peu. Schizophrénique, c'est peut-être un peu fort, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle veut montrer et à qui.
Sandra, encore aller.
En fait, moi, je la trouve scolaire. C'est-à-dire que, et notamment toute la deuxième partie à l'étage sur l'exportation de l'art vénitien dans toute l'Europe, on a alors les Vénitiens et l'Angleterre, les Vénitiens et Paris, puis dans les pays germaniques, puis à la cour d'Espagne. Voilà, bon, effectivement, on se lasse un peu, malgré le fait qu'ils aient convoqué comme scénographe une metteur en scène qui est Masha Makeyev, et ça pouvait être une bonne idée, effectivement.
Metteur en scène et scénographe
exactement,
de théâtre.
Ça peut être une bonne idée d'aller justement dans l'exubérance, dans cette question de la sérénissime Venise. Je trouvais que c'était une bonne idée, mais on est un peu déçus. C'est-à-dire qu'il y a quelques trouvailles. Masha Makeyev, elle a convié différents créateurs de théâtre, notamment, je crois, Stéréo Optique, qui a créé des sortes de lanternes magiques. Alors, c'est assez à propos, puisqu'à l'époque, notamment, les Védoutés étaient réalisés grâce à la chambre noire ou la chambre optique. Mais j'ai moins aimé, par exemple, les réalisations de robes de Isabelle Borchgrave qui sont suspendues dans le grand escalier qui permet de passer.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup vu ça.
Voilà, on a beaucoup vu
ces robes suspendues.
Voilà. La bonne idée, c'était, par contre, alors on s'en aperçoit moins dans l'exposition comme ça au premier abord, sauf si on tombe bien, c'est de faire participer des musiciens du conservatoire, je crois, du Conservatoire National de Musique de Paris, et des comédiens, et du coup, effectivement, de faire honneur aussi à ce qu'il y a d'art vivant à la musique, au théâtre, à l'opéra, et pas seulement à la peinture ou aux arts du décor.
Oui, ça je l'ai dit, c'est tous les mercredis, bah, en ce moment, puisque c'est tous les mercredis de 19h à 22h qu'il y a des interventions artistiques in situ. Alors, c'est pas les gens qui s'ennuient la journée, dont parlait Frédéric Bonnet, mais les gens qui s'ennuient peut-être en début de soirée. C'est vrai que le bon moment pour aller voir cette exposition, c'est sans doute celle où elle vit. Peut-être qu'il manque un peu de cœur qui bat, parce que moi je parlais de ce catalogage, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même de... Voilà, sujet A, sujet B, sujet C, avec bien sûr de très belles pièces, ça et là, il manquerait plus que ça, quand même, mais éblouissante, on n'est pas... Enfin voilà, on n'a pas besoin de lunettes de soleil quand même pour rentrer dans le Grand Palais, Frédéric Bonnet.
Non, on n'a pas besoin de lunettes de soleil, mais néanmoins, on va quand même dire des choses positives.
Allez-y.
Mais c'est en même temps là où la chose pêche. Moi j'ai pointé un tableau dès la première salle, c'est qu'il y a un très beau tableau de Canaletto qui s'intitule Le fleuve des mendiants et qui renverse complètement la perspective sur Venise et l'image de la Venise justement splendide, éclatante, éblouissante, opulente. C'est la Venise des miséreux qui est donnée à voir. Et ça c'est quand même intéressant de montrer que Canaletto tout à la représentation de la splendeur de Venise, a aussi montré les bas-fonds et les arrière-cours. Et c'est très très bien que ça a été mis dans cette exposition. Et une autre chose dont je me suis réjoui à la visite, c'est le focus qui a été fait sur Giambattista Piazzetta, qui est quand même un des artistes les moins connus de l'attelage vénitien du 18e, on va dire. Et il y a des tableaux assez prodigieux qui sont prémoderne dans le sens où il y a un traitement qui, je trouve, à la fois des corps et de la lumière qui correspond pas du tout à ce qui se fait chez les autres à la même époque. Il y a un Judith et Holoferne qui est très très étonnant, avec Holoferne
qui n'était pas à Venise au 18e.
Oui, c'est ça, sur le ventre, le visage très peu visible, et Judith dans une position aussi quasiment de dos qui se retourne. C'est une chose assez étonnante. Et à l'intérieur de l'espèce d'alcôve qu'on lui a réservé, il y a aussi un portrait d'un jeune homme, un porte-drapeau. Le tableau est daté 1742. On pourrait aisément mettre 1842. c'est presque un prémisse de Courbet. Dans le traitement du visage, dans le traitement de la blancheur du drapeau, il y a quelque chose de raide qui n'est pas du tout concomitant à ce qui se fait justement en peinture à côté chez Guardi ou chez Ricci ou chez Canaletto. Donc ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. Il y a aussi un beau portrait de femme, toujours de Piazzetta. Voilà, donc il y a quand même des raisons de se réjouir.
Autre raison peut-être, des perles que vous avez remarquées, Sandra Dancourallet?
Autre raison, oui, ce sont ces chefs-d'œuvre incroyables. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des œuvres qui disent beaucoup, notamment ce Judith Holoferne. En fait, on pourrait aussi le lire, quand on se renseigne un peu, comme le symbole d'une victoire aussi à l'époque, à la bataille de Corfou, sur l'Empire ottoman. Et là, ça aurait été intéressant d'avoir cette vision un peu politique, parce que c'est aussi un siècle, et moi je m'attendais à une exposition là-dessus, qui montre à la fois l'apogée de cette république, mais aussi son déclin. Et on est dans un siècle de marasme économique et politique. Et la symbolique, par exemple, de cette œuvre aurait été intéressante à souligner, même si elle existe dans le cartel, effectivement. Et de la même manière, un tableau aussi célèbre que le Pietro Longhi, le rhinocéros de 1751, alors on est quand même ravis de le revoir à chaque fois, dit beaucoup aussi de ce siècle des Lumières, notamment par sa composition, où on voit bien cette opposition qu'a fait Longhi grâce à cette masse noire du rhinocéros qui signifie la bestialité, qui l'oppose finalement au faste assez blanc des personnages qui sont représenté plutôt dans le haut du tableau. On voit bien ce grand débat autour de nature et culture qui existe au siècle des Lumières. Voilà, ce genre d'éléments aurait pu être développé, et à partir simplement des œuvres, ça aurait été intéressant.
Alors, quelques œuvres qui vous ont retenu peut-être pour finir, Boris Atrux?
J'aurais aussi parlé des Piazzetta, parce que je les ai trouvées vraiment, vraiment exceptionnelles. Moi, j'ai beaucoup aimé la présence des caricatures, et je pense que le fait que la commissaire est une spécialiste des arts graphiques, je pense que c'est quelque chose qui est souvent mésestimé dans les expositions, les arts graphiques. Et il y a une présence extrêmement variée de techniques. On a des sanguines, des aquarelles avec des couleurs vraiment, vraiment incroyables. On a des petits croquis, et on a cette présence des caricatures, notamment à deux endroits qui m'ont vraiment marqué. Le premier endroit, c'est dans la salle sur le monde du spectacle et la musique. On a un album de caricatures de ce qui était, je pense, à l'époque les stars de la musique. Et notamment, on a des caricatures de Castra par un dessinateur qui s'appelle Zanetti, qui sont extrêmement croustillantes. Et je trouve que c'est un peu les coulisses de ce siècle-là. On a aussi la manière dont Venise se moque d'elle-même, et de cette espèce de culte de ces stars qui faisaient des tournées en Europe et qui s'habillaient de façon extrêmement
Lady Gaga de ce temps-là.
Et puis il y a aussi toutes les caricatures de Tiepolo père qui sont sur ces figures prototypiques de Venise. On en a trois à un endroit, qui reprennent notamment ces costumes que les Vénitiens portaient pour leur assurer l'anonymat dans la ville, parce que c'est difficile d'imaginer une ville où on pouvait reconnaître personne, je pense quasiment, parce que tout le monde portait, beaucoup de personnes portaient cette tenue qui masquait à la fois le corps, donc c'était, on savait pas si on avait affaire à un homme ou une femme, à quelqu'un de vieux, à quelqu'un de jeune, à quelqu'un de la ville ou à quelqu'un d'ailleurs.
Éblouissante Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, c'est le titre complet de cette exposition au Grand Palais jusqu'au 21 janvier. Notez d'ailleurs que samedi soir, Nuit Blanche à Paris oblige, l'exposition est ouverte gratuitement de 20h à minuit. Sinon, tous les mercredis soirs, je le rappelle, 19h à 22h, des spectacles, hein, puisqu'il y a des comédiens, des musiciens, des danseurs qui viennent se produire dans les galeries nationales. Il y a un catalogue, bien sûr, publié par la RMN Grand Palais. Il y a un film officiel, si je puis dire, de l'exposition « Venise l'insolente ». Réalisé par Laurence Thiria et Leslie Grimbert. Ce sera diffusé dimanche 7 octobre à 17h30 sur Arte. On peut aussi se le procurer en DVD chez Arte Édition. Et puis pour goûter aussi autrement, très richement, vous avez parlé du goût de l'érudition des spécialistes du XVIIIe siècle. Il y en a un, Michel Delon, qui s'y connaît et qui publie un très beau livre, Casanova, mes années vénitiennes, chez Citadel et Masno. C'est une anthologie qui l'a réuni et présenté, Michel Delon, spécialiste donc des Lumières, de Sade, de Diderot. Très beau livre et ouvrage très passionnant aussi pour compléter cette visite. À suivre dans la dispute, amour, rien que ça. Au musée du Louvre Lens, Fred Sandbach chez Marianne Goodman, et il y aura aussi un coup de cœur de Sandra Adam Couralet.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, en nous rendant au magnifique musée du Louvre-Lens pour une exposition qui, de la séduction, la liberté, en passant par l'adoration ou encore les plaisirs, prend le pari quand même risqué de s'intituler tout simplement « Amour ». Alors, bien sûr, il y a quelques œuvres qui servent d'armes de séduction massive. Est-ce suffisant ? On en parle après ce teaser musical. Amour au Louvre Lens, commissariat de Zev Gorarier et Dominique de Fonréau, scénographie de l'agence NC, Nathalie Crinière. Moi, j'ai pas eu la chance, le temps surtout, d'aller au Louvre Lens pour l'instant voir cette exposition Amour. Donc, je suis tout écoute et tout amour, évidemment, pour vous, autour de cette table. Amour, Frédéric Bonnet, qu'est-ce qu'on y voit?
On y voit des œuvres assez magistrales, un parcours que moi personnellement j'ai eu beaucoup de plaisir à traverser, même si je suis au final resté un peu circonspect sur le titre même de l'exposition, parce que plus qu'une étude sur l'évolution du sentiment amoureux ou du regard sur le sentiment amoureux, moi j'ai trouvé que pour une grande part, cette exposition, c'était une histoire du traitement misogyne et violent réservé aux femmes dans l'art et dans la société.
Je trouve c'est le sous-titre, que... ça, donc, que vous inventez.
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était quand même ça qui ressortait beaucoup du lot. C'est vraiment la misogynie avec laquelle on traite les femmes dans en tout cas dans un large panel des œuvres qui sont montrées ici, parce que passer la première salle qui est assez magistral, je dois dire, un peu une sorte de célébration de l'amour idéal avec des représentations de couples antiques, mais alors de d'origine diverse, égyptienne, étrusque, grecque, romaine, et c'est vraiment des pièces assez exceptionnelles. Commence un enchaînement qui va aller de la séduction à l'amour de la femme, la passion. Dans tout ça, d'emblée, on vous pose que le pouvoir de séduction de la femme est finalement assez maléfique et destructeur. Ève et Pandore, qui sont mises en exergue dès le début, sont d'emblée stigmatisées. Et surtout, on voit s'enchaîner les maltraitances. Et c'est vrai que tout ce qui égrène l'histoire de l'art, mais c'est quand même des rapts, des viols, les enlèvements. Il y a une série d'ouvrages du Moyen-Âge, je trouve assez prodigieux, ça aussi. Les titres sont sans appel, c'est La malice des femmes, L'imperfection des femmes, la méchanceté des filles. Donc c'est vraiment, on a une entrée en matière sur la femme dangereuse. Et moi je trouve ça très très intéressant d'avoir fait ça, même si je suis pas sûr que c'ait été la volonté des commissaires.
C'est en tout cas, ce que vous avez vu,
c'est ce qui m'a sauté à la figure. Alors après, ça s'adoucit un petit peu par la suite, mais il y a quand même toujours un fond d'une certaine violence.
Vous avez ressenti cela, Maurice Atrux, devant cette exposition Amour au Louvre-Lens?
Oui, en partie parce que le propos s'organise comme ça sur un certain nombre de postulats. Et notamment un postulat téléologique qui à travers un certain nombre de périodes et de façons dont disent les commissaires, c'est la façon dont la figure de la femme, donc essentialisée, a été réhabilitée comme ça à travers les siècles jusqu'au présent. Donc on a une image comme ça quand on traverse les siècles. Qui est quelque chose que le Louvre-Lens fait déjà dans la Galerie du Temps, c'est une façon d'avancer dans le temps, mais vers une image. Là, c'est vraiment vers une image du progrès, et qui pour moi est, je pense, historiquement extrêmement problématique, parce que ça. Donc, les différentes étapes, ce serait donc au départ que. Déjà postuler que l'amour est un sentiment universel. Auquel on n'échappe pas, qui est comme quelque chose comme ça qui flotte dans l'air et qui ne poserait jamais il ne serait pas vraiment question de rapport de genre ou de rapport de conflit et de violence entre les genres, en tout cas plus jusqu'aujourd'hui. Moi ça m'a vraiment posé problème, et notamment il y a un certain nombre de choix que je trouve extrêmement orientés pour convaincre d'une certaine linéarité historique.
Par exemple,
la réouverture des portes du paradis par la Vierge. Donc ça dote les premiers siècles du christianisme, et l'illustration comme ça de cet événement, qui est un événement mythique, qui est un événement la réouverture des portes qui viendrait racheter les crimes d'Ève et de Pandore. En fait, j'ai un problème majeur, c'est que ça construit un récit historique à partir de choses qui sont des mythes, qui sont des mythes littéraires, qui sont des mythes historiques, et ça les utilise comme un certain nombre de vérités. Et surtout, ça les utilise comme un certain nombre de vérités sans jamais prendre en compte le fait que les représentations d'Ève et de Pandore, par exemple, c'est principalement des représentations qui sont de la Renaissance et qui sont du 19e siècle. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on me raconte pourquoi, à la Renaissance et au 19e siècle, on ressort comme ça les figures d'Ève et de Pandore, parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est pas une seule et même chose. Les hommes ne parlent pas d'elles-mêmes, il faut les faire parler pour qu'elles nous disent quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait déjà un récit qu'ils avaient envie de raconter, et les œuvres ne servent qu'à illustrer, donc elles sont piochées à droite à gauche.
Et appuyer le récit.
À appuyer le récit, et il n'y a jamais de moment où ça crisse, où ça pourrait il pourrait y avoir des blocages, alors que cette histoire de l'amour est pour moi principalement une histoire de conflit entre les genres.
De conflit. Sandra d'Encoralet, Amour, et vous?
Ben justement, moi je trouve que c'est une exploration de la mythologie de l'amour de manière transversale à travers les siècles, c'est-à-dire qui circule à travers les siècles, et je trouve intéressant de se rendre compte qu'un même mythe effectivement est réinterprété au 19e siècle alors qu'il était déjà représenté dans l'Antiquité. Plus qu'une exposition d'histoire d'amour, comme le disait Frédéric, je dirais plutôt qu'effectivement c'est une exposition qui propose d'explorer les différentes relations qui peuvent exister entre deux êtres, des rapports d'attraction, mais aussi de répulsion d'ailleurs. Et moi, je trouve que ça crisse parfois avec ces histoires de rapt et d'enlèvement. Je trouve pas qu'on soit dans une linéarité forcément tout au long de l'exposition. En fait, ce que j'ai trouvé formidable, moi, dans cette exposition, c'est la mise en avant, en fait, de la valorisation de l'individu au cours des siècles. Et on s'aperçoit que cette question du sentiment, finalement, n'est possible qu'au moment où, au XVIIIe siècle, la notion d'individu est possible. Le fait qu'on soit acteur aussi d'un plaisir, on soit acteur d'une relation. Et ça, je trouve que c'était très bien montré. Ensuite, effectivement, pour la question d'une certaine misogynie ou d'un rapport homme-femme qui est omniprésent dans l'exposition, avec la femme vue comme la tentatrice, etc., je trouve que l'exposition le dit très bien et l'avoue d'elle-même dès le début. Et donc pour moi ça c'est important. C'est-à-dire que dès le début elle se met sous le signe de Platon, Platon avec son mythe de l'androgyne qui dit que finalement la question de, enfin la terre était au départ peuplée d'hommes de trois genres. Il y avait des hommes de nature double qui fusionnaient deux hommes, des hommes qui fusionnaient deux femmes et des hommes qui fusionnaient un homme et une femme. Et l'exposition, en fait, elle montre bien que c'est avec l'avènement du christianisme qu'on a retenu un seul genre, c'est-à-dire Adam, qui était à la fois homme et femme, et du coup, en le séparant en deux, Dieu créa Ève et établit la relation hétérosexuelle comme seul modèle. Mais je trouve que c'est dit dans l'exposition. Et donc, si l'exposition elle illustre essentiellement les rapports homme-femme, c'est parce qu'elle fait l'aveu de sa dépendance justement à des œuvres qui découlent presque toujours d'une conception finalement judéo-chrétienne.
Alors, le problème, il est peut-être dans ce titre « Amour », parce que le catalogue, lui, il s'appelle « Amour, une histoire des manières d'aimer ». Et là, tout d'un coup, on a quand même un éclairage qui ressemble davantage à ce que vous décrivez de ce qui est présenté dans l'exposition. Cette question de la misogynie, puisque ce mot vous n'est pas revenu dans votre bouche, Boris Atrux.
Pour moi, le grand problème de l'exposition, c'est qu'on a l'impression, en visitant l'exposition, que la misogynie s'arrête. À un moment, on passe...
C'est ça le progrès ?
C'est ça le progrès. Mais c'est le progrès qu'on veut nous faire croire, et je trouve que c'est un...
C'est forcé.
C'est, en plus d'être forcé, c'est un énorme mensonge. Mais c'est que il y a l'apparition progressive. Alors ça commence par j'ai oublié, c'est soi-disant une importation d'Orient avec la figure de Majnoun, et puis ensuite on passe à la courtoisie, et puis ensuite on passe à la relation de la galanterie au XVIIe siècle, et puis ensuite on a le libertinage qui est raconté comme ça, comme une espèce de
progrès pour les femmes.
De progrès pour les femmes.
C'est vrai.
Alors, ouvertement. Et puis on a
pas d'accord, vous savez,
avec c'est exactement ce que une des deux commissaires a dit pendant la visite presse. J'aimerais bien l'inventer, mais malheureusement, je l'ai entendu. Ouais. Et donc, pour moi, c'est ce problème de l'orientation de l'exposition qui est une orientation, pour moi, qui occulte un certain nombre de choses en arrivant vers... Et je pense que c'est un problème peut-être lié à une vision un peu anthropologique des choses, je ne sais pas.
Près
d'Aïk Bonnet. C'est une grande question.
Non, bon, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Boris relativement au fait qu'on tente à nous faire croire que les problèmes de violence et de misogynie vis-à-vis des femmes tentent à disparaître au fur et à mesure qu'on avance dans l'exposition. Et justement, moi aussi, j'ai été assez choqué de la présentation du libertinage comme une libération de l'individu. Et alors, de l'homme peut-être, de la femme sans doute pas. Un des chefs-d'œuvre qui est présenté dans cette section-là, qui est le verrou de Watteau. Qui est-ce qui tient le verrou?
Oui.
C'est quand même l'homme, c'est pas la femme.
Oui.
Et donc qui se fait enfermer, qu'elle soit consentante ou pas, j'en sais rien. Mais c'est l'homme et c'est la femme qui se fait enfermer. C'est pas l'homme. Et surtout que là, par contre, c'est pour moi le plus gros ratage de l'exposition. C'est la dernière salle qui est un final contemporain qui est très très court, beaucoup trop court.
C'est toujours le problème des fins contemporaines dans ces expositions historiques. On n'en sort jamais.
Avec une Vénus de Nikita Saint-Phalle qui donc serait censée évoquer l'émancipation féministe. Mais alors, si on veut vraiment évoquer l'émancipation féministe, allons-y franchement et balançons une sculpture de Raymond Darcier, par exemple. Un truc bien, bien dur, ou des albums d'Annette Messager, par exemple, sur les rapports hommes-femmes, on peut y aller. Donc, ce final, ni fait ni à faire, justement, où d'un coup, la femme aurait été libérée de tout, est quand même très problématique.
Sandra a encore à aller, enfin.
Alors, je suis d'accord que la fin de l'exposition, voilà, sur cette liberté féminine est vraiment pas traité en fait, donc on aurait mieux fait de peut-être pas la faire. Moi je trouve que, parce que chaque salle en fait, il faut pas l'oublier, mêle un peu toutes les époques, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un focus un peu linéaire sur cette évolution au cours des siècles, voilà, de l'amour qui devient courtois au Moyen-Âge, sous l'influence de l'Orient d'ailleurs, de l'amour ensuite impossible, qui devient romantique au XIXe siècle, d'une certaine liberté de sentiments qui évolue avec au XVIIIe siècle avec l'apparition de l'individu, je l'ai dit. Mais justement, le fait de mêler les époques permet aux visiteurs d'aujourd'hui, je trouve, dans chaque salle, pour chaque question, finalement, de se poser la question. Je trouve que c'est une exposition pleine d'enseignements, en fait, sur la question de la prédation et de la liberté qui, est, évidemment, est au cœur des débats actuels. Et je trouve que ça en parle.
Dernier mot, Boris Atreux, sur Amour, Louvre Lange.
Je pense que ça peut en parler suivant le bagage culturel qu'on a. Et je ne suis pas sûr que... Je pense que cette exposition est une exposition qui veut convaincre de ses postulats de départ. Et je pense qu'on peut passer à côté de ces subtilités parce qu'elle est... C'est un peu une machine de guerre, je trouve, sur cette façon d'avancer un peu à gros sabots. Bon, il y a quelque chose que je voudrais dire avant de terminer sur cette exposition, si je peux.
Bien sûr, allez-y.
C'est que ça prend donc le postulat du couple avec cette salle introductive. Donc on voit des couples, principalement des stèles de tombes, avec des couples éternisés pour les éternisés.
Voilà.
Ce que les commissaires soulignent, c'est que ils veulent, bon, évidemment, le couple hétérosexuel comme modèle prototypique pour les temps futurs, elle est évidente. Mais il y a l'introduction de soi-disant couples homosexuels dans l'exposition qui, moi, m'ont énormément posé problème parce que c'est des constructions de couples homosexuels a posteriori. Et donc, je trouve que ça normalise comme ça des couples qui n'en ont jamais été. En fait, c'est des constructions du présent. On peut voir Apollon et Hyacinthe comme un couple, sauf que c'est une vision du début du 19e siècle de... comme ça, l'homosociabilité. Mmh. Et donc, je trouve que ça aussi nie un certain nombre d'invisibilisation et de violence de tout ce qui n'a pas été un couple hétérosexuel, en faisant croire que ces couples en étaient vraiment. Socrate et Alcibiade, c'est pas ça. C'est une histoire de domination des races romaines. Enfin, je trouve qu'il y a aussi un, alors qu'en questionnant comment était vue la virilité au début du 19e siècle, on pourrait, je pense, construire un discours beaucoup plus complexe sur, par exemple, sur comment des couples d'hommes ont été dépeints sur la peinture, sans vouloir y imposer la vision d'un couple normatif comme je pense l'exposition le fait.
Bon, exposition qui pose des questions, bon, qui regorge de chefs-d'œuvre, on les a pas énumérés, mais on peut s'en douter, on peut regarder un peu les listes d'œuvres d'exposés dans Amour, elle est visible jusqu'au 21 janvier au musée du Louvre-Lens. Il y a un catalogue donc qui s'appelle lui Amour, virgule, une histoire des manières d'aimer, ce qui est peut-être plus clair, coédité par le Louvre-Lens et Liénard Édition. Un coup de cœur rapide de Sandra Adam-Corallet pour Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur. Voilà un titre avec plein de mots dedans. C'est au musée de Pont-Aven à voir jusqu'au 6 janvier. Pourquoi faut-il aller voir cette exposition, Sandra ?
J'ai eu la chance, j'étais en vacances en Bretagne. Voilà.
Racontez-nous votre vie, ça nous intéresse. Dans quel coin ? Vous aimez les crêpes ? Non. Alors, Paul Sérusier.
Donc, à Pont-Aven, de tomber sur cette exposition que j'ai trouvée réjouissante parce que, alors, elle prend appui sur cette peinture de 1888, peinte par Paul Sérusier, qui est devenu le talisman des nabis. Cette œuvre, normalement, elle est conservée au musée d'Orsay. Et donc j'avais à la fois envie de parler de cette exposition pour déjà souligner l'initiative du musée d'Orsay de remontrer cette œuvre dans son contexte. Je crois qu'elle a été montrée une seule fois à Pont-Aven en 1953. Donc,
et
ça
vous n'y étiez
un moment,
pas, bizarrement.
Et j'y étais pas. Et puis, je voulais aussi en parler parce que c'est une exposition très réussie avec des prêts incroyables. Sur les 80 œuvres environ, il y a à la fois les collections du musée de Pont-Aven qui là prennent tout leur sens, des collections privées également, mais aussi 18 prêts du musée d'Orsay et des prêts assez incroyables. On a par exemple dans la première salle la Madeleine au bois d'amour d'Émile Bernard qui est magnifique, ou une Marine avec vache de Gauguin. Voilà, ce sont des œuvres qu'on montre rarement en dehors du musée d'Orsay. Il y a aussi des petites peintures religieuses peintes par Maurice Denis qui sont absolument incroyables. Et l'exposition est très bien ficelée et montre de manière à la fois pédagogique mais de manière très intelligente et érudite comment justement ce tableau, malgré lui presque, est devenu un peu le symbole d'une explosion de couleurs qui a conduit au fauvisme par la suite. Et l'exposition d'ailleurs met du Kandinsky à la fin. Enfin voilà, ça tisse le fil.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Le talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur, à découvrir au musée de Pont-Aven jusqu'au 6 janvier 2019.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et la dernière séquence de cette dispute art plastique est consacrée à une exposition en galerie. On aime bien parler des expositions en galerie, où on peut rentrer gratuitement, où on est généralement bien reçu, on peut avoir un contact avec les œuvres. Alors, on parle beaucoup de galeries parisiennes et on nous en fait le reproche. C'est vrai que pensez à des coups de cœur de galeries en région. Mesdames et messieurs les critiques, ce serait aussi assez formidable. Bon, pour l'instant, on parle de l'exposition à la galerie Marianne Goodman qui s'appelle Le fil d'Occam. C'est le titre de l'exposition de Fred Sandbach qui, pourtant, et on va l'expliquer, est mort en 2003 à l'âge de 60 ans. C'est un sculpteur américain dont l'œuvre s'inscrivait dans le courant minimaliste, pour aller vite. Il a développé au fil des années, jeu de mots, une pratique singulière en tendant des fils dans les espaces d'exposition. Et nous poussons les portes du 66 rue du Temple à Paris, galerie Marianne Goodman, en suivant les pas de Boris Atrux, qui va nous parler de Fred Sandbach. Ça vous amuse déjà ?
Vous m'amusez en règle générale. Donc,
ah bon, c'est bien. Je vais m'empêcher. Je la prends pour une première. Ça commence bien. Alors, Fred Sandbach.
Alors, Fred Sandbach, c'est. Il faut dire déjà, c'est la première exposition à Paris depuis une dizaine d'années, 10 ans maintenant. Il a été très peu montré en France, je pense. Et moi, c'est un artiste que j'ai d'abord découvert dans les livres, ce qui est un peu un paradoxe parce qu'en fait, c'est des fils. Donc, quand on voit des photos de son de son travail, c'est, je pense, l'artiste le plus déceptif en photo jamais inventé. C'est impossible à photographier, on rate vraiment quasiment tout quand on voit que des photos. Et puis je l'avais découvert aussi à un lieu au nord de New York qui conserve son travail et qui le montre en permanence, qui s'appelle la Dia Foundation.
À Beacon.
Et là, ça m'a fait extrêmement plaisir de revoir ces fils tendus dans l'espace, parce que la galerie fait un peu office de musée. Mmh. Elle a décidé de, plutôt que de mimer le geste de l'artiste, qui aurait sans doute fait quelque chose de complètement différent, parce qu'en règle générale, il était invité pour construire une œuvre qui s'adaptait à l'espace où il exposait, qui était en général éphémère, qui est d'un matériau, donc le fil acrylique coloré qui est extrêmement pauvre, donc qui en général ne se conserve pas, et qui surtout, même si l'œuvre est réexposée à un autre endroit, elle change de dimension, mmh. elle est comme ça, métamorphique complètement.
Ouais.
Et donc, c'est une exposition avec entre 10 et une douzaine d'œuvres environ, de toutes les époques, de ses débuts où il n'avait pas encore adopté le fil acrylique, donc il travaillait avec des fils élastiques. Donc, il y a une œuvre comme ça qui est très, très minimaliste, dans le sens qui fait vraiment penser aux œuvres du courant minimaliste de la milieu années 60, qui est dans un coin comme ça, qui est plus un volume que les autres. Jusqu'à des œuvres très contemporaines. Et puis il y a un clin d'œil comme ça avec une œuvre qui est un hommage à Brancusi, qui est au rez-de-chaussée, qui est sur un socle, puis ensuite une ficelle qui va jusqu'au plafond, qui prend comme ça juste le mouvement que fait l'oiseau, je crois, de Brancusi. Donc ça tisse comme ça un fil qui est pas vertical, mais qui est un petit peu décentré, et qui est extrêmement beau.
Alors c'est difficile en photo, mais c'est difficile à la radio aussi, hein, de parler de Fred Sandbach, mais c'est l'exercice qui vous est proposé. Sandra Adam-Courallé.
Oui, la magie qui opère en fait avec Fred Sandbach, c'est que par la simple tension de fil, en fait, il fait apparaître des surfaces. Et la simple délimitation du vide entraîne que nous complétons mentalement en fait les formes, et on a vraiment l'impression d'être placé devant des volumes. Et c'est assez amusant de s'apercevoir qu'on n'ose pas entrer dans les espaces d'ailleurs. C'est comme si les surfaces existaient vraiment. C'est une œuvre incroyable parce que c'est une œuvre à la fois minimale par définition et en même temps d'une humanité incroyable, parce que si on s'approche des fils, il y a de très légères imperfections, en fait, qui sont dues à la tension, justement, qui se crée sur les fibres et qui leur donne un petit aspect vibrant. Et donc, c'est pas seulement un jeu d'illusion, finalement, ce que fait Sandbach, ce sont aussi les traces d'un homme. Lui, il parle d'une intrusion modeste d'un homme. Et je trouve que c'est assez incroyable. Ces traits, ces lignes qu'on pourrait comparer à un dessin au fusain, finalement, avec cette humanité derrière.
Frédéric Bonnet, vous aimez Fred Sandbach ?
Ah, mais moi, je conseille à tout le monde d'aller se couler dans les sculptures de fil de Fred Sandbach. Non, c'est absolument c'est un travail que moi je trouve assez essentiel dans l'histoire de la sculpture contemporaine pour plusieurs raisons. La première, alors effectivement, nos auditeurs qui ne connaissent pas le travail, qui entendent parler de fil machin, ils peuvent se dire ça ne ressemble à rien. En gros, j'ai envie de leur dire, effectivement, ça ne ressemble à rien. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez deux fils, alors un va être dans l'angle, un va être sur le sol et remonter sur le mur, un autre va partir du sol au plafond, et donc il va en avoir 3-4 comme ça qui définissent des espaces. Mais c'est justement ça la question. C'est comment est-ce que avec un ou deux ou trois ou quatre, voire un peu plus, mais donc quelques fils tendus dans un espace, on reconfigure une architecture, on reconfigure là où Sandbach c'est très très fort, c'est que la sculpture elle est complètement au service de l'espace, de ce qu'il, lui, il appelait ça l'environnement, et donc de l'architecture. Et si elle est autant au service de l'espace qu'elle va occuper, c'est en partie à cause d'une de ses contingences essentielles, qui est la transparence. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de faire de la sculpture. La sculpture, normalement, c'est de l'extraction de la matière. Lui, il a tellement extrait la matière qu'au final, il y a presque plus grand chose. Il reste quelques fils. Et Sandbach, avec ces quelques fils, il crée des volumes faiblement perceptibles, qui même parfois disparaissent. Il y a une pudeur de la sculpture que je trouve absolument remarquable et très 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 très, très touchante, et qui s'accompagne aussi d'une gestion de la lumière, selon quel jour vous allez, selon quel jour à quelle heure et quel est le climat à l'extérieur, vous ne verrez pas la même exposition, parce que il y a une expérience optique qui est vibratoire, mais de manière absolument infime. Il y a un très joli texte de Valérie Mavridorakis, pardon, qui va être réédité d'ailleurs, qui est réédité par la galerie. Elle parle dans ce texte du temps de latence pour le regard. Et ça, je trouve que c'est une expression merveilleuse. C'est-à-dire, on est obligé d'attendre un petit peu pour voir s'il se passe quelque chose ou pas, parce que finalement peut-être que ça peut ne pas bouger, et cette gestion de la lumière, elle est essentielle. Et d'ailleurs, si vous allez à la librairie qui est en face, il y a des gravures aussi de Sandbach avant, et il y a un très bel ouvrage qui est sorti très récemment également sur Fred Sandbach et Louise Barragan. Et ça, c'est pas rien. Et alors, c'est un bonheur à feuilleter, parce que c'est la Fondation Barragan qui a été à l'origine de ce projet en 2016, je crois, qui a invité l'estate de Fred Sandbach à venir faire des interventions dans différentes constructions de Barragan. Et
l'estate, c'est la structure qui s'occupe de continuer à faire vivre l'art de Fred Sandbach.
Et ces questions d'espace, de rapport à l'espace, de volume, de transparence, de disparition, tout est là d'une manière magistrale.
Oui, parce qu'apparence, disparition, c'est ça aussi qu'il faudrait essayer de transmettre à nos auditrices et auditeurs, d'y aller, parce que c'est très, très curieux, cette présence-absence de l'œuvre. On est là, dans l'espace, et tout d'un coup on voit plus, et puis on appréhende à nouveau. Il y a quelque chose d'assez presque incroyable à constater. Boris Atrux, quelques mots encore.
Moi, je voudrais ajouter que, en citant une autre artiste, j'aime bien en général lire ce que les artistes disent des autres artistes, et là, c'est un texte d'hommage d'Andrea Fraser, donc cette artiste américaine de la critique institutionnelle, qui est pourtant, on pourrait imaginer, à milieu de Fred Sandbach, qui lui a écrit un texte hommage après sa disparition. Et le texte s'intitule « Pourquoi le travail de Fred Sandbach me fait pleurer ?» Et elle dit, je voudrais juste citer un tout petit peu la fin de son texte, où elle dit « Travailler si simplement, faire si peu, se restreindre à d'aussi modestes moyens et à un vocabulaire formel aussi limité sur une aussi longue période, c'est en soi une forme de disparition. Pour moi, ce qui rend le travail de Sandbach aussi émouvant, ce n'est pas qu'il en a fait autant avec si peu, mais qu'il en a fait si peu. L'extrême retenue de son travail n'est pas quelque chose dont je fais l'expérience en tant qu'acte de refus, mais en tant qu'acte de grande générosité. »
Et le dernier mot pour Sandra, donc on va aller.
Oui, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent l'art du film, et ça me fait surtout penser à un artiste qui travaille des fils impalpables, c'est Anthony McCall. Je trouve qu'il y a ce même rapport du travail qui est indissociable en fait de l'expérience du visiteur. Et comme McCall, je trouve qu'il y a une sorte de... Enfin, c'est une sorte de mathématique mystique, enfin, c'est un peu grandiloquent ce que je dis, mais qui en tout cas a l'art de nous emmener dans des choses très profondes à partir de formes les plus simples.
à voir, vous l'avez compris, à ne pas rater cette exposition de Fred Sandbach à la galerie Marianne Goodman jusqu'au 27 octobre. La galerie, c'est au 79, oui, chaque fois je confonds, la librairie au 79, la galerie au 66, rue du Temple. Et donc à la galerie, ce sera jeudi 11 octobre, de 18h30 à 20h, un lancement et conférence de cette réédition du livre de Valérie Mavridakis, Fred Sandbach ou le fil d'Occam. Donc ce sera l'occasion de pouvoir parler et échanger autour de Fred Sandbach. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, Sarah Dion nous a rejoint et nous rappelle la question du jeu d'hier. Sarah.
Nous demandions où se situe le bien nommé La Criée, Théâtre National de Marseille, dans la ville.
On se demande,
sur le Vieux-Port.
Ce soir, des places de cinéma à gagner pour le film Shut Up and Play the Piano de Philippe Gédic, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Sarah ?
Quel est le vrai nom de Chili Gonzalez ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter notre émission et surtout vous abonner au podcast de la dispute en passant. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Lucille Como, Raphaël Léris et Alexandre Comte. Nous parlerons de La Robe Blanche de Nathalie Léger chez POL, La Chance de leur vie d'Agnès de Sarthe aux éditions L'Olivier. Il y aura un coup de cœur de Raphaël Léris pour Toutes les femmes sauf une de Maria Pourchet, puis un petit salon de Lucille Como qui sera consacré à la polémique autour du livre auto-édité de Marco Koskas.